de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Le ministre libanais des Affaires étrangères démissionne à cause du manque de volonté de réforme. L'organisateur des Jeux paralympiques de Tokyo a développé un protocole spécial pour prévenir la COVID-19. 5 écoles de Kedah en Malaisie ont été fermées en raison de leur appartenance à un cluster de COVID-19. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Nassif Hitti, a démissionné lundi en raison de ce qu'il appelait un manque de volonté politique de réforme dans son pays. Les donateurs étrangers ont insisté sur le fait qu'il n'y aura pas d'aide tant que Beyrouth n'adoptera pas de réforme. Les pourparlers avec le Fonds monétaire international ont été reportés dans un débat sur l'ampleur de pertes financières. L'agence de presse Reuters a rapporté que le Liban avait entamé des pourparlers avec le Fonds monétaire international en mai après avoir échoué à rembourser son important dette en devises. Mais le sauvetage par un accord avec le FMI a été retardé en raison du manque de réformes et au milieu de divergences entre le gouvernement et les banques concernant les pertes financières. L'organisateur des Jeux paralympiques de Tokyo élabora un protocole spécial pour empêcher la propagation de la COVID-19 tout en gardant tous les athlètes en bonne santé et en sécurité sur le site. La mise en œuvre des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, l'organisateur s'est assuré que son emploi du temps ne subirait pas beaucoup de changements. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 24 août 2021. En outre, un total de 539 matchs se dérouleront dans 22 lieux différents. Comme l'a déclaré le directeur de match Hidemasa Nakamura, cité par Reuters lundi. Pendant ce temps, l'un des athlètes japonais de para-taekwondo, Mitsuya Tanaka, espère que les Jeux paralympiques de Tokyo l'année prochaine seront un moment pour montrer au monde que le coronavirus peut être vaincu. 5 écoles des régions de Kubang Pasu et Padang Terap dans l'est de Kedah en Malaisie ont été fermées du 2 au 29 août en raison de clusters de patients sous l'enquête Siva Ganga. Le gouvernement de l'État de Kedah a déclaré lundi dans un communiqué que l'action avait été menée afin de limiter la propagation de l'épidémie de COVID-19. Il a dit que toutes les écoles ont été fermées pendant 28 jours, dont 14 jours de mise en quarantaine et 14 jours d'observation. La République populaire de Chine construira un tunnel de train rapide sous-marin reliant la ville Ningbo aux îles Zhoushan sur 16,2 km dans les eaux territoriales orientales. Selon les médias locaux, lundi, le train rapide chinois aura le premier et le plus long tunnel sous-marin. Après 2 ans de préparation, la proposition technique pour la construction du tunnel de train rapide sous-marin a passé l'évaluation du comité d'experts dirigé par Qian Qihu de Chinese Academy Engineering la semaine dernière. Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et vous êtes en train d'écouter le journal. La France signale 3376 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 3 derniers jours. Le département de la santé français a annoncé lundi qu'il y avait eu plus de 3000 nouveaux cas de COVID-19 au cours de 3 derniers jours. Selon Reuters, le nombre de patients positifs continue d'augmenter et le nombre de personnes traitées dans les unités de soins intensifs est aussi en hausse. La moyenne de nombre quotidien atteint plus de 1000 pendant 5 jours consécutifs. Cette situation n'a pas été vécue par la France lorsque la quarantaine a été imposée pendant 2 mois à la mi-mars 2020. Les autorités sanitaires françaises ont également annoncé 29 nouveaux décès à cause de la COVID-19. Le total a atteint plus de 30 000 personnes. Jusqu'à présent, le nombre de patients positifs en France a atteint plus de 190 000. Lundi, le premier ministre français Jean Castex a exhorté les gens à ne pas baisser la garde dans la lutte contre COVID-19. L'autorité de Lille, l'une des plus grandes villes en France, a ordonné à ses citoyens de porter des masques à l'extérieur, notamment dans les rues piétonnes. Le président Joko Widodo a ordonné à ses rangs de mener immédiatement une campagne massive pour porter des masques au cours des 2 prochaines semaines dans le but de freiner la propagation COVID-19. L'ordre a été transmis par le président Joko Widodo lors d'une réunion limitée sur le thème de la gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale au Palais Merdeka Jakarta lundi. Le président a déclaré que le taux de guérison de cas en Indonésie à partir des dernières données de 61,9% selon lui s'améliorait et devait continuer d'augmenter en nombre de guérisons. Pour cette raison, le président veut que le protocole de santé et le changement de comportement parmi la population soient vraiment une préoccupation. Le comité de gestion de COVID-19 accordera la priorité à la création d'un sentiment de sécurité et de santé dans la communauté pour éviter une récession au 3e trimestre 2020. Cela a été dit par le secrétaire du comité de gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale, Raden Pardede, dans un webinaire sur le thème de l'économie indonésienne et au bord de la récession. Quelle est la solution qui a eu lieu à Jakarta lundi? Selon Pardede, les étapes maximales qui peuvent être prises dans la situation actuelle sont la réalisation de tests, de transferts et isolement, de sorte que cela soit au centre des préoccupations dans les prochains mois. Le comité de gestion de COVID-19 augmentera le test de réaction en chaîne de polymérase ou PCR et suivra les personnes infectées par SARS ou CoV-2 pour atteindre un nombre positif de la COVID-19 inférieur à 5% selon l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020, sur le thème « L'Indonésie va de l'avant ». La longévité pour la République indonésienne.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, le gouvernement se concentre sur la mise en œuvre des protocoles de santé. Le président Joko Widodo voit la préoccupation actuelle du public concernant COVID-19 augmente. C'est ce qu'a déclaré le président lors d'une réunion limitée qui a discuté de la gestion de COVID-19 et de la reprise de l'économie nationale au Palais Merdeka lundi. Le président a admis de ne pas savoir pourquoi les gens allaient si inquiets. Il a dit que ce soit en raison de l'augmentation des cas ou de la communauté, en particulier de la classe moyenne supérieure, avoue de nombreuses personnes qui n'obéissaient pas au protocole de santé. En effet, le taux de cas de positifs à la COVID-19 et le taux de mortalité qu'il provoque en Indonésie sont encore relativement élevés. Le nombre de cas positifs a dépassé 100 000 et le nombre de décès a dépassé 5 000. Par conséquent, le président veut changer la stratégie pour gérer l'impact de la pandémie en se concentrant davantage sur la mise en œuvre des protocoles de santé. Il a demandé à la campagne de mettre en œuvre des protocoles de santé plus massifs et plus concentrés. Le président Joko Widodo a prévu que pendant 2 semaines, le gouvernement se concentrera sur la campagne pour porter des masques. Pourquoi ne porter qu'un masque? Pourquoi la campagne n'a-t-elle pas inclus de garder une distance, pas de s'aimer et de se laver les mains fréquemment? Le président a raisonné, si ensemble, peut-être que les gens de la classe moyenne supérieure pourraient comprendre rapidement. Cependant, les gens de la classe inférieure ont besoin d'explications une par une. Après 2 semaines de campagne portant un masque, elle se poursuivra par une campagne de 2 semaines pour garder une distance ou se laver les mains. Le président a même demandé aux maires d'autonomisation du bien-être familial d'aider massivement la campagne. Le nombre élevé de cas positifs de COVID-19 est inquiétant en effet. Cependant, comme l'a dit le gouverneur de DKI Jakarta, Anies Baswedan, le chiffre montre également que le gouvernement mène massivement des tests avec un plus large éventail de personnes. Ce chiffre montre également que les gouvernements central et régional ont travaillé dur pour suivre la transmission et le test. Si de plus en plus de personnes ne respectent pas les protocoles de santé, elles doivent d'abord en chercher la cause, avant que la manipulation soit appropriée. La communauté est-elle moins informée des protocoles de santé? Quelqu'un n'a-t-il intentionnellement empêché le public d'accéder à des informations correctes? Aux États-Unis, les gens sont divisés entre ceux qui sont d'accord avec les protocoles de santé et ceux qui sont totalement en désaccord. Ils se sont même fermement opposés à l'utilisation de masques et n'ont pas voulu garder leur distance. En conséquence, le nombre de cas positifs de COVID-19 dans le pays continue d'augmenter fortement, sans tendance à la baisse. De même, le taux de mortalité. Cette attitude divisée est bien sûr motivée par les décisions communautaires, y compris les politiciens. Ne laissez pas l'Indonésie vivre quelque chose comme ça. Les Indonésiens doivent d'abord comprendre que la mise en œuvre de protocoles de santé est très importante. Ceci peut être réalisé si toute la communauté peut accéder à des informations correctes sur la pandémie de COVID-19. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, la naissance de Barack Obama, le 4 août 1961. Barack Hussein Obama II est un homme politique américain étant le 44e président des États-Unis. Barack Obama naît le 4 août 1961 à Hawaï. Diplômé de l'Université Columbia de New York et de la Faculté de droit de Harvard, il est en 1990 le premier Afro-Américain à présider la prestigieuse de Harvard Law Review. Après avoir été travailleur social dans les quartiers sud de Chicago durant les années 1980, puis avocat en droit civil à sa sortie de Harvard, il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Chicago de 1992 à 2004. L'autre information est le contingent indonésien a remporté sa première médaille d'or aux Jeux olympiques d'été le 4 août 1992. Le contingent indonésien a remporté la médaille d'or pour la première fois aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 à Barcelone. Les matchs ont eu lieu à Pavillon de la Marbella du 28 juillet au 4 août. Susie Susanti a remporté le badminton en simple femme et Alan Budikusuma a remporté le badminton en simple homme à Barcelone. Le drapeau rouge et blanc haute volée marque la première médaille d'or du contingent indonésien aux Jeux olympiques depuis 1952 à Helsinki. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement le 4 août 2007, lancement de la sonde spatiale Phoenix. Phoenix est une sonde spatiale américaine de la NASA, les États-Unis. Le Phoenix a été lancé sur Mars dans le cadre du programme de Mars Scout le 4 août 2007 et a atterri sur Mars le 25 mai 2008. Le but de ce programme est d'étudier l'histoire de l'eau dans l'Arctique Mars, de rechercher des preuves des zones habitables et d'évaluer le potentiel biologique de la glace, du sol et de l'atmosphère. Phoenix a étudié le sol martien avec un laboratoire de chimie, un microscope et plusieurs caméras jusqu'en août 2008. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui senyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan, embun membasahi dunia dan
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée L'Indonésie et la Nouvelle-Zélande renforcent leur partenariat global au milieu de la pandémie COVID-19. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, et le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Winston Peters, ont présidé la 9e commission ministérielle mixte de la République d'Indonésie-Nouvelle-Zélande mercredi. La réunion était la première à se tenir virtuellement pendant la pandémie COVID-19. Comme indiqué par le site web kemlu.go.id, lors de la réunion, la ministre Retno Marsudi a exprimé son appréciation à la Nouvelle-Zélande comme l'un des premiers pays à coopérer avec l'Indonésie pendant la pandémie COVID-19 sous la forme d'un engagement à 6,2 millions de dollars néo-zélandais ou 59,4 milliards de roupies. L'engagement visait entre autres à améliorer la qualité des services de tests COVID-19 avec l'Institut Eijkman d'une valeur de 6,3 milliards de roupies. Par UNICEF, 48,6 milliards sont canalisés pour accroître les services de communication des risques à la communauté, la fourniture et la distribution d'équipements de protection individuelle et la prévention des infections, ainsi qu'accroître la préparation des services importants et 4,5 milliards de roupies pour d'autres sources. Au cours de la réunion, les deux parties ont également discuté de diverses questions bilatérales, telles que les engagements en matière d'atténuation de la pandémie et de reprise économique après-pandémie et la réalisation d'objectifs commerciaux bilatéraux d'une valeur de 40 millions de roupies. En 2024, l'augmentation de l'accès au marché pour les produits indonésiens et le renforcement de la coopération dans le cadre de l'accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a également réaffirmé la nécessité d'un travail dur entre les deux pays pour atteindre objectifs et créer un commerce plus équilibré. La ministre Retno Marsudi a également exprimé sa gratitude pour l'augmentation des investissements de la Nouvelle-Zélande en Indonésie qui ont atteint 9 millions de dollars américains au premier semestre 2020. Dans le domaine politique, l'Indonésie apprécie la Nouvelle-Zélande qui respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Indonésie. Outre les questions bilatérales, les deux parties ont également discuté de diverses questions régionales et mondiales qui intéressaient les deux pays, à savoir la situation dans la mer de Chine méridionale, la coopération dans la région du Pacifique, le soutien de l'Indonésie à la présidence néo-zélandaise dans l'APEC 2021 et la signature du partenariat économique régional global par les deux pays. La réunion aboutit à une déclaration conjointe signée par les deux ministres des Affaires étrangères ainsi qu'un plan d'action pour le partenariat global entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande pour la période 2020-2024. Le plan d'action définira divers engagements et opportunités de coopération qui peuvent bénéficier aux populations des deux pays. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Menikmati rasa-rasa ini aku bersamamu.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel en produisant le sagu Woku Komo Komo. Depuis longtemps, le sagu est devenu un aliment de base des Moluques. Le sagu peut être transformé en différents types d'aliments. L'un d'entre eux, le sagu Woku Komo Komo. La spécialité de Moluques est faite de sagu et de la feuille Woku. La feuille woku est une sorte de feuille de palmier à emballer. La farine de sagou est une farine transformée provenant de la terrasse de tiges de sagou ou de sagoutier. Cette farine a des caractéristiques physiques similaires au tapioca. Pour faire de sagou woku komo komo, la farine de sagou est d'abord trempée dans de l'eau froide pendant une heure. Ensuite, la saisonnement, qui est l'ail, la citronnelle et le gingembre, sautés. Les abats de poisson et l'eau sont mélangés et cuits jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Préparez le mélange de sagou en faisant sauter l'ail et l'oignon jusqu'à ce qu'il soit parfumé et jaune brunâtre. Puis ajoutez le lait de coco liquide et le sagou trempé. Après avoir bien mélangé, ajoutez plus de lait de coco épais, du sel, du poivre et des oignons verts tranchés. Puis faites cuire jusqu'à ce qu'il soit cuit. Une fois le mélange de sagou cuit, laissez-le jusqu'à ce que le mélange ne soit plus chaud. Ensuite, le sagou et les entrailles de poisson cuit sont placées dans les feuilles woku, enveloppées et rôties avec des charbons ardents jusqu'à ce que les feuilles sèchent. Lorsqu'il est mangé, le sagou woku komo komo se sent savoureux. Son arôme est également si typique car il utilise beaucoup d'épices. Le sagou woku komo komo peut également être mangé en accompagnement avec une assiette de riz chaud. Cette cuisine est facile à trouver dans les restaurants d'Ambon et de Ternate au nord de Moluk. Le prix est d'environ 10 000 à 15 000 rupiah. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue et du livre du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Tari apa itu? Tari apa itu? Ou en langue française, c'est quelle danse? Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation et un pour titre Tari apa itu? Tari apa itu? Ou en langue française, c'est quelle danse? La situation est au studio de danse. Kevin a demandé à City quelle danse les élèves dansaient. Bonne écoute.
Siapa yang sedang menari itu?
Oh, mereka adalah mahasiswa yang sedang berlatih menari.
Apa nama tarian itu?
Tari topeng dari Jakarta.
Chers amis, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire les expressions et les vocabulaires reliant au thème d'aujourd'hui. C'est Tari apa itu? Tari apa itu? En français, c'est quelle danse? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez me répéter. Siapa yang, qui, mereka adalah. Mereka adalah, elles sont. Apa nama tarian itu? Apa nama tarian itu? Quel est le nom de la danse? tari, tari, dance. Dari, dari, de. Chers amis, vous pouvez utiliser le mot de question siapa, siapa, en français, qui, pour demander sur l'homme. Et le mot de question apa, c'est quoi en français, pour demander sur quelque chose. Par exemple, siapa yang sedang menari itu? Siapa yang sedang menari itu? Qui est cette personne qui danse? Apa nama tarian itu? Apa nama tarian itu? En français, quel est le nom de danse? Un autre exemple, si vous demandez siapa yang sedang menari itu? Siapa yang sedang menari itu? En français, qui est cette personne qui danse? Apa nama tarian itu? Apa nama tarian itu? En français, quel est le nom de la danse? Et la réponse pourrait être, par exemple, mereka adalah mahasiswa yang sedang menari tarian topeng. Mereka adalah mahasiswa yang sedang menari tarian topeng. En français, elles sont des étudiants qui dansent la danse des masques. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois. Bonne écoute.
Siapa yang sedang menari itu?
Oh, mereka adalah mahasiswa yang sedang berlatih menari.
Apa nama tarian itu?
Tari topeng dari Jakarta.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020, sur le thème « L'Indonésie va de l'avant, la longévité pour la République indonésienne ». Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et maintenant je vais vous présenter le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson malaise dont le titre est Usah Lupa Daratan, chantée par Indra Shah Nilam et Lan Shahrus. Chers auditeurs, la chanson intitulée Usah Lupa Daratan a été créée par Indra Shah Nilam. Cette chanson se compose de poésie et de rimes. Conformément au titre de la chanson, les paroles de cette chanson invitent les auditeurs à ne pas oublier la terre. C'est l'un des proverbes indonésiens qui signifie ne pas agir sans voir la capacité à faire du bien à tout le monde et à faire l'aumône. La caractéristique de la musique malaise apparaît immédiatement dans cette chanson, car la musique commence avec l'extrait du jeu Gambus. En plus des extraits de Gambus, cette chanson est également accompagnée de tambourins, accordéons et violons. Usah Lupa Daratan est une chanson malaise de Sambas en langue malaise, Sambas, la langue malaise avec dialecte de Sambas. Bon, chers auditeurs, voici Usah Lupa Daratan, chanté par Indra Shah Nilam et Lan Shahrus. Bonne écoute. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.